Le détroit de Bering se situe tout à fait au sud du Chili et de l'Argentine, qui permet de rejoindre les deux océans, Atlantique et Pacifique, et qui représentait un autre enjeu, non seulement de surveillance de cette région, mais il ne faut pas oublier qu'un peu plus bas, il y a un gisement dont on parlera peut-être de plus en plus avec le réchauffement climatique, mais qui est une réserve d'eau douce énorme pour l'humanité. Et puis, il y a tout le passage au sud des deux pays, donc, et entre autres par le détroit de Bering, qui concernait l'Est et l'Ouest aussi à cette époque-là. Le pays qui aurait eu, disons, la mainmise sur ce détroit avait du coup une position supposée, en tout cas, de pouvoir se présenter à de futures tables de négociations internationales importantes au niveau géopolitique.
Dans ce bras de fer, Jean-Paul II décide d'envoyer le cardinal Antonio Samoré comme médiateur. Quel était l'intérêt de l'Église d'être médiatrice dans ce conflit ?
Alors, je crois que le premier intérêt, il faut rendre justice à l'histoire. Les deux épiscopats, chiliens et argentins, ont eu une préoccupation pour la paix dès le départ. Et il faut savoir qu'il y a, du côté argentin, il y a eu des occasions qui ont été saisies pour appeler l'intervention papale. Déjà, lors de l'élection de Jean-Paul Ier. Début 78, la situation était très 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 grave, très tendue entre les deux pays. Jean-Paul II est élu pape, et à ces deux élections ont participé deux cardinaux importants. Pour l'Argentine, le cardinal Prima Testa, qui était archevêque de Cordoba, et puis Enrique Silvestre de Santiago du Chili, qui se sont rencontrés à Rome et qui ont demandé l'intervention aussi à Jean-Paul II. Je voudrais souligner quand même qu'il y a eu un appel au pape de la part des épiscopats argentins et chiliens, alors que les militaires avaient intérêt, d'une certaine manière, à trouver un ennemi commun.
En 1984, l'Argentine et le Chili signent un traité de paix au Vatican. Comment qualifier cette victoire diplomatique ?
Je crois que ce traité de paix, c'est finalement la victoire de plusieurs choses. Évidemment, de la raison politique, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à imposer une sorte de conviction que la guerre est toujours la pire des solutions. Et que, à l'opposé, la paix, c'est une attitude qui est une vraie victoire. Pourquoi ? Parce qu'on amène celui qui aurait pu être un adversaire avec lequel on allait s'entretuer à parcourir un chemin pour des objectifs positifs pour les deux peuples. Et il faut dire aussi que la conférence épiscopale argentine s'est autodisciplinée d'une manière assez incroyable, en disant par exemple « aucun de nous ne parlera publiquement de cela ». On confie cette gestion au pape et à son délégué. Ils se sont rencontrés, d'ailleurs, les deux commissions permanentes du Chili et de l'Argentine. Nous allons, nous concentrer à faire prier pour la paix et à faire une catéchèse sociale qui mette en avant les bienfaits de la paix. Donc il y a eu aussi ce travail interne qui a accompagné cette irruption, si l'on peut dire, du pape Jean-Paul II, dans cette médiation qui a été très courageuse, effectivement.
Benoît XVI reçoit ce samedi les présidentes argentines et chiliennes. En quoi l'Église continue-t-elle de jouer un rôle dans l'équilibre entre ces deux pays ?
Entre les deux pays, ce n'est pas simple, d'autant qu'il y a des problèmes d'immigration aussi entre les deux, évidemment. Et ce qui attire mon attention dans cette visite, c'est que les deux présidentes ne sont pas, disons, des femmes d'Église, si l'on peut dire. Aucune des deux. Et c'est un grand symbole pour moi de dire que finalement l'Église est porteuse de quelque chose qu'elle a en propre et qui fait qu'aujourd'hui, pour la commémoration de ce 25e anniversaire du traité de paix et d'amitié entre l'Argentine et le Chili, eh bien l'Église est reconnue par les dirigeants d'aujourd'hui. L'Église a à certains moments dans l'histoire un rôle spécifique et qui est indélégable d'une certaine manière.